l'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Désolé, bonjour et bienvenue pour le 241e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Je suis heureux de vous retrouver en présentiel dans le studio, puisque j'étais encore en vacances il y a deux semaines, et Pierre a, comme toujours, brillamment assuré l'animation de cette émission.
Ah, j'avais tellement pris l'habitude que j'ai oublié t'allumer ton micro, quoi.
C'est ça. On t'a pris ses aises tout seul dans le studio, c'est bon, tu es autonome, Pierre. Donc Pierre, bonjour d'ailleurs.
Bonjour.
C'est donc l'actualité des deux semaines écoulées, et on va commencer par l'Internet et vie privée. Alors Pierre, question, on commence par brève, on commence par la quadrature du net. Je ne sais que choisir aujourd'hui.
Oh, c'est vrai qu'on a le choix. Hein.
Allez, on va commencer par la quadrature du net, qui lance une plainte collective contre la Technopolis du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire contre tous les outils de surveillance qui sont actuellement mis en place. Alors ça va des plus classiques, hein, la vidéosurveillance, renommée dans la novlangue sécuritaire vidéoprotection. Rappelle qu'une caméra, ça surveille, ça protège pas, ça vient pas vous défendre si vous vous faites agresser. Mais également les technologies émergentes, expérimentées notamment par le regrettable Christian Estrosi à Nice, avec la reconnaissance faciale, notamment testée dans les lycées, mais également contre des fichiers tels que le TAJ, hein, le traitement d'antécédents des infractions, qui notamment contient énormément d'erreurs, et ce qui est préjudiciable et donc aux personnes qui en sont victimes, puisque ce fichier, il est vérifié pour certaines professions. Alors, c'est pas le seul fichier, hein, qui est vérifié, notamment il y a le FIGES, le fichier des délinquants sexuels. Bon. Il y a quand même une certaine utilité. Il est normal que des gens qui ont été condamnés pour violence sexuelle ne soient pas au contact d'enfants, par exemple. Donc, il peut y avoir des usages, on va dire, légitimes, sauf que là, ça déborde largement. Et le droit à la présomption d'innocence est quand même largement bafoué dans ce genre de choses. Alors, c'est assez courageux dans la mesure où la vidéosurveillance, il y a quand même, si on prend alors ne serait-ce que les sondages, hein, on sait très bien que selon la manière dont sont rédigées les questions, on peut obtenir un petit peu la réponse que l'on veut. Mais voilà, si on demande aux gens, êtes-vous favorable à la vidéosurveillance, on a souvent des taux d'acceptation entre 70 et 80%. Souvent quand les gens sont victimes d'agressions, qu'est-ce qu'ils demandent? Il faut renforcer la vidéosurveillance. Ça a tellement infusé dans la tête du public que ça va quand même à contre-courant de l'idée majoritaire. C'est notamment la droite, un des principaux angles d'attaque contre les maires qui refusent la vidéosurveillance. Et on est pour la vidéosurveillance, mais que fait la mairie? Nous, on pense à la sécurité de nos concitoyens. Alors, notamment à Lille, on va prendre le cas local. À Lille, la droite, à chaque élection, même à chaque conseil municipal, l'un des principaux reproches faits à Martine Aubry, c'est d'avoir refusé pendant longtemps la vidéosurveillance sur la voie publique. Alors, elle a fini par céder, notamment en offrant une rue, c'est vrai que où il y a des gros problèmes de sécurité, il ne faut pas le cacher, la rue Jules Guesde, ils ont fini par installer des caméras de surveillance. Bon, il y a une rixe au couteau deux semaines après. C'est pour la partie...
Mais justement, c'est parce que c'est des caméras de surveillance, alors qu'il faut mettre des caméras de vidéoprotection, tu vois.
Bon, rappelons qu'il y a eu... On avait parlé dans cette émission, d'ailleurs, d'un rapport de la Cour des comptes. C'est bizarre, parce que les hommes politiques de droite aiment bien les audits de la Cour des comptes, habituellement, qui a montré que, en fait, avoir ou pas la vidéosurveillance sur son territoire, ça n'avait pas de réelle influence sur les taux d'élucidation et sur les taux de délinquance. Alors, à chaque fois que vous parlerez de vidéosurveillance à quelqu'un qui est convaincu de son utilité, il vous sortira, il aura... Effectivement, il y a toujours des cas où la vidéosurveillance a permis de résoudre au moins de retrouver des auteurs. on saura toujours vous en donner. Sauf que les problèmes concernant la vie privée comparés aux réelles utilités, si vous prenez en fait de manière statistique sur l'ensemble de la population et sur l'ensemble de la délinquance, en fait, l'influence, elle est négligeable, si ce n'est presque nulle. Donc, si jamais cette plainte, alors qui est argumentée hein, d'un point de vue juridique, vient aboutir, attendez-vous à un joli shitstorm de la part de tout ce que ce pays compte de démagogues sécuritaires.
Il va y en avoir beaucoup. Et pour rappel, hein, nous utilisons le vrai terme, c'est-à-dire vidéosurveillance, hein, alors que la plupart des politiques publiques aujourd'hui disent vidéoprotection, parce que c'est bien comme une caméra protège activement les gens.
Pierre, tu t'éclaires sur un nouveau cadre de transfert des données entre les États-Unis et l'Union européenne.
Tout à fait, on en a déjà parlé alors à plusieurs reprises, puisque ça a été annulé une fois, ça a été remis, ça a été annulé une deuxième fois, et là c'est en train d'être remis du coup. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, comme les lois entre les États-Unis et l'Europe ne sont pas les mêmes au niveau des données privées, il y a un système d'accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui est mis en place pour dire bon bah en respectant ces règles-là, c'est bon, vous avez le droit de transférer les données. Pour faire très simple. Sauf que à partir du moment où aux États-Unis il y a des lois magnifiques comme le Cloud Act, le Patriot Act et toutes leurs lois ultra sécuritaires et les lois ultranationalistes américaines, notamment si vous n'êtes pas américain, tous les services ont le droit de vous espionner sans aucune intervention judiciaire. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de contradictoire. Il n'y a rien besoin. On peut regarder toutes vos données et tout déchiffrer, tout mettre toutes les backdoors. Ils ont tous les droits. À partir du moment où il y a ça, à chaque fois qu'on a attaqué le principe de transfert de données entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas eu de problème du coup pour que ce soit annulé sur la base de il n'y a pas les protections suffisantes. En gros, le citoyen européen aux États-Unis n'a aucune sécurité face à tout ça. C'est sur cette base que donc c'est ce qu'on appelle les les Schrems, c'est les accords, enfin c'est les jugements Schrems 1 et 2 qui ont eu lieu. C'est de Max Schrems, qui est un activiste de la vie privée, enfin de la défense de la vie privée, c'est un Autrichien si je ne m'abuse. Et donc c'est sur cette base-là notamment qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'utiliser Google Analytics sur un site web en Europe est illégal, puisque Google Analytics transfère les données des États-Unis et il n'y a à ce jour aucun accord permettant de garantir les droits des Européens aux États-Unis, donc tout transfert de données est illégal. Point. Qu'est-ce qui a été fait du coup récemment ? Eh bien, le président Joe Biden a signé un décret pour mettre en œuvre un nouveau cadre de transfert des données personnelles de l'Union Européenne vers les États-Unis. Donc, il y a un accord de principe qui avait déjà été trouvé en mars, parce que les versions précédentes ont été retoquées justement par la Cour de justice de l'Union Européenne. Donc, le commissaire européen à la justice, Didier
Reinders.
Merci.
C'est un Belge.
Ouais, écoute, moi, c'était pas précisé. Hein. Donc, il a dit « Oui, cette signature marque une étape importante dans notre détermination à rétablir des flux de données transatlantiques sûrs et libres. »
Ça montre au moins que les décisions de l'Union européenne ont quand même une influence, puisque l'Union européenne, c'est quand même un gros marché, pour n'importe quoi, mais notamment pour les GAFAM, les entreprises du numérique. Donc, prendre des décisions qui fait que si l'Europe a le cran de faire passer des règlements et de faire respecter ses lois de protection des données, qu'on peut au moins, alors pas forcément obtenir ce qu'on veut des États-Unis, mais au moins on voit que c'est une influence, ça oblige quand même les autorités américaines à faire quelque chose pour que ce soit un petit plus accepté, plus acceptable pour le public européen. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis se mettent à mettre en place des législations qui soient respectueuses de la vie privée des non-américains, mais on voit quand même que ça les oblige à se bouger.
Voilà, et donc là, la réponse sur ce nouvel accord, c'est de mettre en place un système de recours pour les citoyens européens qui estiment avoir vu leurs données personnelles collectées illégalement par les services de renseignement américains. Grosso modo, c'est ça la grande avancée de ce nouveau texte. Et donc, Max Schrems estime qu'il y a 90% de chances pour qu'ils aient à attaquer le nouveau texte et que, du coup, ce sera sûrement retoqué à nouveau. Bisous.
Le navigateur Brave prévoit de bloquer les bandeaux de consentement ou cookies. Alors, normalement, tant qu'on n'a pas accepté les cookies, on est censé. Le site n'est pas censé déposer des cookies.
Oui.
Sauf que il y a certains sites qui considèrent l'absence de réponse comme un consentement préalable.
Ah, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que là, le navigateur, si j'ai bien compris, propose juste d'accepter pour les gens. Parce que, en gros, ils estiment. Ils n'ont pas tort sur la raison pour laquelle ils veulent faire ça.
Oui, alors l'article, toi, t'as compris ça. On n'a pas forcément compris la même chose.
Ah.
Il bloque les. Pour toi, c'est-à-dire qu'en gros, il bloque, il va dire oui par défaut. Moi, c'était bloqué, bon, pour, bloqué. Pour que l'utilisateur continue à surfer sans avoir à refuser les cookies.
Alors, là, il vise à bloquer les bannières de consentement, je cite, qui offrent les garanties les plus solides. C'est compliqué, c'est très compliqué. Après, le but de Brave, c'est d'essayer de respecter autant que possible la vie privée. Il rappelle.
Oui, de la part de Brave, ça m'a étonné fait, qu'ils acceptent par défaut les cookies.
Pire. Oui, non, effectivement. Ah, c'est pas clair leur texte. Je trouve que c'est pas clair et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de
formulation.
De formulation et de deux, de choix. Alors, il y a des sites. Il y a des sites qui fonctionnent et sur lesquels il n'y a pas de bannière de cookies. Et pourtant, le site marche. Et quand on s'y connecte, il y a des cookies quand même. Parce que, en fait, la loi est très claire. Les cookies tiers doivent être acceptés. Mais les cookies du fonctionnement du site, il n'y a pas besoin de les présenter à l'utilisateur.
Là, il y a des cookies, les cookies de session, on appelle. C'est quand vous connectez sur un site, il y en a besoin.
Oui.
Mais ça enregistre juste le fait que vous étiez connecté à ce site et ça évite d'avoir vous authentifier à chaque fois que vous rechargez la page.
C'est tout. Et ça marche très bien et il n'y a aucun problème. En fait, ce qui me gêne énormément avec ce que fait Brave là, et il y a des extensions pour les navigateurs qui le font aussi, c'est dire « Ah, c'est chiant, les sites, ils demandent tous pour les cookies, faut pas afficher ça, c'est trop pénible. » Mais non, le problème, c'est que les sites le demandent. Et si les sites le demandent, c'est parce qu'ils ont besoin de faire du tracking. Donc, plutôt que de se dire pourquoi les sites ont besoin de faire du pistage des utilisateurs, on va se dire « Ah non, il faut arrêter d'afficher le message, ça commence à être pénible, hein, le respect de la vie privée. » Parce qu'au final, même si Brave a pour but de respecter la vie privée et dire « Ben oui, mais il n'y a pas que les cookies pour tracer les gens et que ben, de toute façon, on refuse par défaut et puis c'est marre. » Non, il n'y a pas que ça comme problème. Pourquoi les sites s'entêtent à afficher des bandeaux? Parce que c'est une contrainte pour eux d'afficher ces bandeaux. Pourquoi ils s'entêtent encore à pister les gens? La réponse, c'est le pognon. Mais il ne faut pas en parler apparemment, c'est une mauvaise idée.
Sans parler des sites, quand vous refusez, notamment les sites de presse, quand vous refusez les cookies, ils laissent quand même un bandeau qui prend facilement un quart de la page pour dire « On a besoin que vous acceptiez les cookies pour pouvoir vivre. » Après, le problème du finissement de la presse en ligne est un réel souci.
Il y a un vrai problème, mais ce n'est pas la publicité en ligne qui réglera le moins de problèmes là-dessus, puisque ça va juste les rendre complètement dépendants de Google.
On va parler de Google après avoir parlé de Brave. Un an supplémentaire avant l'obligation de respecter le manifeste V3.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est ? On en a déjà parlé, en fait. Les extensions doivent respecter un manifeste. Donc, c'est un ensemble de critères. C'est un ensemble de paramètres techniques, on va dire, sur le respect que doivent respecter les extensions. Et donc, Google a publié une nouvelle version de ce manifeste, la V3, pour... Nous les citons améliorer la sécurité et la peace of mind. Je n'ai pas d'idée de
quoi. Bah,
la tranquillité des développeurs, ouais, voilà. Vrai. Pour améliorer tout ça, voilà. Et que, voilà, ça sera vachement mieux, voilà. Alors que les développeurs disent, bah, en fait, non, ça annihile les bloqueurs de publicité et de contenu malveillant sans améliorer la sécurité. Donc Google initialement voulait désactiver les anciennes extensions en janvier 2023. Finalement, ils vont le faire en janvier 2024 apparemment.
Ce qui m'étonne, c'est que les bloqueurs de pub fonctionnent encore sous Chrome.
Ben, ils sont déjà bien bridés par rapport à Firefox. Et alors,
c'est moi s'il y a bien une raison, c'est-à-dire pratique au-delà de l'aspect j'utilise du logiciel libre qui ne dépend pas de Google d'utiliser Firefox, c'est quand même pouvoir mettre des bloqueurs de pub.
Alors moi, c'est l'une des premières fois que je vois cette phrase-là. Je l'aime beaucoup et je pense que je vais m'en servir. C'est que C'est sur le site OS News, hein, c'est l'éditeur principal du site, et je vais pas m'amuser à prononcer son nom. Je crois qu'il est, je sais pas de quel pays il est, mais j'y arriverai pas. Et donc, la phrase est simple, Chrome est une plateforme publicitaire, en premier lieu, et principalement. C'est tout. Chrome est une plateforme publicitaire avant d'être un navigateur web.
Google, son principal financement, c'est la publicité en ligne.
Voilà, donc il n'y a aucune raison pour que Chrome... C'est normal que Google fasse ça. On peut faire une levée de bouclier si on veut. C'est le comportement tout à fait normal de Google. Au bout d'un moment, si vous voulez un navigateur...
Normal, je dirais plutôt logique.
Logique. Ben, c'est normal à partir du moment où leur business, c'est la pub. Enfin, oui, c'est donc, oui, logique ou... Je comprends le point de vue. Bref, Google, si vous utilisez Google Chrome, c'est normal que vous ayez de la pub. C'est fait pour, ça vient de là.
On continue les brèves après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Alfonso Lugo, Baila. Vous écoutez les codes Gnou sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com.
Qué bueno que swipe hacia la derecha, mamá. Porque esta noche le daremos movimiento. Que uno, dos tequilas solo pa' calentar. Mira que aquí estamos pa' disfrutar el momento. Show me what you got, oh baby, dance for me, me das. Toda tu pasión y tu sudor, más vete lento. Que no tengo prisa, que esta noche da pa' más. Muévete, sorquita, aquí nomás. Baila, baila. Hasta que no me enamores, baby, tú. Baila, baila. Probaré tus sabores, baby, tú. Baila, baila. Enséñame tus colores, baby, tú. Baila, baila. Habita mi corazón. Sentiré cómo me bailas, muévete rico, que no hay palabras para describir cómo en mi cielo tú te empalmas. Mueve tus pies, que bien sabes que yo contigo desde el bungee sin arnés. Y al oído yo te diré que el dirty talk se nos vendrá hasta en inglés. Oh yes, oh yes. Baila, baila, hasta que no me enamores, baby, tú. Baila, baila, probaré tus sabores, baby. Baila, baila, enséñame tus colores, baby, tú. Baila, baila, habita mi corazón. Temblores, porque con tus labios tú me das todos los sabores. Sabes que este mundo no es lo mismo sin tu amor. Dámelo todo, que yo lo acomodo. Dámelo el max, que el mío lo tendrás. Llenémonos de besos, que hoy somos traviesos en exceso. Baila, baila, hasta que no me enamores, baby, tú. Baila, baila, probaré tus sabores, baby, tú. Baila, baila, enséñame tus colores, baby, tú. Baila, baila, habita mi corazón.
C'était Alfonso Longo, Baila. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la deuxième partie des actualités et on va parler sortie logicielle, en tout cas logiciel libre de manière générale. Et Linux, donc, dans la version 6.1 de son noyau, intégra Rust. Et Pierre, tu voulais parler d'une petite blague AMD pour Linux, ça m'a fait rire aussi.
Ouais, celle-là, elle craint quand même. Alors juste, donc on en a déjà parlé à plusieurs reprises de l'intégration du nouveau langage de programmation Rust dans le noyau Linux. Ça y est, maintenant, c'est officiel, c'est bon, c'est acté, c'est fait. Le noyau Linux, officiellement, vient d'intégrer un deuxième langage de programmation, ce qui était depuis 20 ans complètement, enfin depuis 30 ans complètement inimaginable.
Et un langage qui te plaît beaucoup, Pierre, d'ailleurs.
Qui me plaît beaucoup, en tout cas, ça me plaît qu'il y ait enfin des solutions qui soient proposées et qui règlent quand même pas mal de problèmes du monde du développement logiciel. Donc, à suivre, on verra comment ça va être utilisé, comment ça va être accueilli par les nombreux développeurs du noyau, mais c'est une excellente nouvelle. Et enfin, oui, une petite blague concernant le support des processeurs AMD sous Linux. Donc c'est un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que nos systèmes d'exploitation modernes, ils sont modernes, oui, mais ils ont fonctionné pendant 20 ans, 30 ans, et ils ont accumulé, pendant 30 ans, ils ont accumulé des déchets. Ils ont accumulé des contournements, des... Ah merde,
il a fallu patcher.
Voilà, ah merde, en fait, ce matériel-là, quand on fait ça, ça se comporte pas bien. Bon, on va mettre un contournement, on va éviter ça. Il y a ça aussi. Voilà, on contourne. On accumule. Et en fait, en 2002, on s'est rendu compte que certaines puces utilisées avec des processeurs AMD avaient un problème. Elles plantaient. Et donc, on s'est dit, on va rajouter une instruction, on va rajouter un truc pour ralentir à tel endroit, pour éviter d'avoir le plantage. Très bien. Sauf que, il y a un petit souci, c'est qu'à l'époque, le correctif, ils n'avaient pas de solution pour bien l'isoler, pour que ça ne s'applique vraiment qu'au système concerné et que ça ne puisse pas déborder. Puis bon, l'impact était assez mineur. On ne s'en rendait pas trop compte à l'époque. Et avec les processeurs modernes, ce genre de correctif, et ben là, on est tombé sur un cas où il y a un correctif qui a été conçu du coup pour des machines en 2002, pourrit les performances de processeurs sortis en 2021-2022. 20 ans plus tard, le cadavre sort du placard et dit « Coucou, je suis là ».
On appelle de la dette technique.
Exactement. Les différences de performance sont assez importantes. Hein. Il y a sur des micro-benchmarks, donc vraiment sur des tests très précis qui poussent, qui appuie là où ça fait mal, on a des différences de performance de 50% sur certains tests. C'est majeur comme impact. Et c'est un vieux correctif tout pourri qui a été supprimé. Voilà. Ils ont changé de ligne de code. Voilà. À peu près. Pour enlever l'ancien correctif. Et ça fait un gain de 50% de performance sur certains usages.
C'est quand même non négligeable.
Ah oui, c'est con hein, d'avoir encore ce genre de truc. Hein. C'est dommage.
Google met fin à son service de jeux en ligne, donc de jeux vidéo en streaming, Stadia, qui avait été lancé en 2019.
Oui, alors, 3 ans.
3 ans. Alors, on peut quand même noter le fait que Google était honnête sur le coup et a quand même annoncé... S'ils le font vraiment, mais en tout cas, ils ont annoncé qu'ils rembourseront l'intégralité des jeux qui ont été achetés et toutes les extensions, ça s'appelle les DLC.
Alors, oui, mais moi,
déjà, ils remboursent.
Oui, mais bon. Déjà, moi, ça me fait beaucoup rire, hein, quand même. Hein, Google qui enterre encore un service.
Ouais, ça arrive. Hein.
Dites, c'était prévisible quand même. C'est des services enterrés chez Google. Il y a des sites web cimetières Google avec des services partout et des trucs, mais. C'est juste,
on compte deux ou trois tentatives de remplacer Wikipédia.
Oui, entre autres. Et du coup, il y a quelques éléments quand même où... Alors certes, ils remboursent, ok, mais ils avaient quand même du matériel qui a été vendu et qui était limité à Google Stadia. Est-ce que ce matériel verra des mises à jour pour être débridé, pour pouvoir être utilisé librement, être utilisé avec un ordinateur, un ordinateur directement? Parce qu'ils avaient des manettes qui ne fonctionnaient qu'avec Stadia.
c'est quand même assez. C'était quand même le limite du jeu en ligne. Enfin, du jeu en streaming.
Ah bah oui, oui.
Et moi, je suis un vieux de la vieille, hein, moi, mais jeux vidéo.
C'est des cartouches dans une console, ouais.
Ouais, moi, j'ai encore des cartes. Eh, mais j'ai une carte SD dans une console, monsieur. Parce que moi, je tiens à pouvoir jouer à mon jeu vidéo. Donc, non, c'est
carte. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi.
Et moi, les nouvelles consoles, acheter une console. Juste pour avoir une coquille vide et ne pas pouvoir mettre de jeu. Alors moi, je suis un ancien, hein, mais moi, ça me choque.
Oui, oui, ça me choque aussi.
Surtout auprès de la console.
Oui. Et du coup, c'est assez perturbant, hein, comme situation, au final. Ils ont annoncé, oui, ça va être trop génial, on va essayer d'avoir des exclusivités, on va sortir plein de trucs, vous allez voir, ça va supprimer les PC gaming, on n'en aura plus jamais besoin. Ils ont jamais fait vraiment de marketing, ils ont jamais réussi à décoller, et du coup ils arrêtent, parce que bon, hein, tant pis. Moi je trouve ça génial, le fonctionnement de Google là-dessus. C'est magnifique. Alors, la petite tristesse que j'ai quand même, c'est que Google Stadia, c'était des serveurs sous Linux, et du coup pour faire fonctionner un jeu sous Stadia, il fallait que les éditeurs de jeux vidéo fournissent le jeu en version Linux. Alors ça voulait pas dire qu'ils le livraient au grand public, mais ça veut dire quand même que le jeu, s'il était à côté, rendu disponible sous Steam, donc la plateforme de Valve, bah c'était quand même beaucoup plus facile pour eux à mettre à disposition. Ou s'ils le mettaient en disposition sous Windows, ça faisait quand même un jeu qui, a priori, était quand même à peu près portable. Et du coup, il y avait des chances pour que ça marche plus facilement dans l'émulateur Wine.
Et on a des nouvelles de la console de Valve ?
Elle marche très bien.
Elle marche très bien.
Mais par contre, je pensais qu'on faisait pas la pub de service propriétaire, donc j'en parle pas trop.
Ouais.
Non,
je n'avais pas spécialement entendu parler.
La Steam Deck a dépassé le million d'unités vendues. Ils ont arrêté de la file d'attente pour l'achat de la console. Donc maintenant, tu peux l'acheter sans file d'attente.
Ils ont attendu longtemps aussi, quand même.
Ah, il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu plusieurs évolutions et tout. Et il y a eu une conférence là récemment. J'ai pas considéré bon d'en parler à la Academy, donc la conférence annuelle des développeurs KDE. Ils ont parlé de la Steam Deck et notamment de tout ce qu'ils ont intégré dans KDE pour répondre aux besoins de Valve et de cette console là. Puisque donc la console est vendue par défaut en mode console, mais il y a un bouton pour passer sur un mode bureau Linux. Et ça a on n'a pas de chiffres, on ne sait pas combien de personnes ont découvert Linux grâce à ça. Mais voilà, c'est on appuie sur un bouton et on a un environnement Linux complet avec toutes les applications KDE ou tout ce qu'on veut.
Et en parlant de KDE, Pierre, tu vas nous parler de la dernière évolution de la série 5, la 5.27 de Plasma.
Tout à fait, donc ça a été annoncé, donc toujours à l'Académie dont on vient de parler. Donc il y a la 5.26 qui devrait sortir la semaine prochaine, donc avec les évolutions habituelles. La 5.27 sortira en février et sera la dernière version de Plasma 5, donc l'environnement de bureau KDE. La version suivante sera Plasma 6 et sortira. Alors, ça serait. Moi, ça me surprendrait qu'elle sorte sur le planning habituel, donc ça aurait été une sortie en juin. Ça me surprendrait un petit peu quand même, ce sera sûrement un peu plus tard dans l'année. Donc, c'est une évolution majeure, on va dire, d'un point de vue. Compatibilité des applications, c'est juste une mise à jour complète. Il y aura pas, ce sera pas nouveau, ce sera pas une révolution. On peut s'attendre à là à nouveau, c'est la routine, on va dire, une amélioration du support de Wayland, parce que c'est beaucoup de travail, donc à chaque fois ça avance au fur et à mesure. Et donc pour la partie vraiment technique, c'est le passage à Qt 6 en fait.
Tu voulais nous parler d'un autre logiciel KDE qui est Ghostwriter.
Ouais, j'aime bien ce genre de petit logiciel.
C'est une espèce d'éditeur non WYSIWYG, ce que je vois.
C'est ça, mais c'est ce que j'aime bien dans ce genre de logiciel, c'est pour ça que j'en parle.
Non WYSIWYG, hein, pour les non-initiés, c'est-à-dire que la visualisation, ce que vous tapez, en fait, ne correspond pas exactement à ce que vous allez voir.
Est-ce que c'est WYSIWYG ou non, ça, il y a un petit débat. En fait, c'est un éditeur de texte déjà qui se veut sans distraction. Vous ouvrez l'éditeur de texte, vous tapez et vous n'avez pas d'interface autour pour vous distraire. Vous avez juste une barre de menu en haut, mais vous n'avez pas de barre d'icône. Vous avez une barre en bas pour taper pour avoir 2-3 informations et des raccourcis rapides. Et en fait, le but, c'est d'avoir un éditeur où on se concentre sur notre texte. Et ça utilise, alors là par contre, effectivement, c'est un petit peu technique. Je n'ai pas encore testé l'éditeur, je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc dans l'éditeur, on a un aperçu de ce que rend le document. Donc c'est pour ça, est-ce que c'est WYSIWYG ou pas,
oui, mais
pas.
C'est
compliqué. Mais du coup, on tape effectivement en Markdown. Alors le Markdown, c'est un format de texte. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, je ne veux pas juger, mais qui permet en fait assez facilement de faire des titres, des sous-titres, des puces, etc., sans avoir à aller cliquer quelque part dans une interface d'éditeur de texte.
Et de manière plus simple que des éditeurs, que des langages dédiés comme LaTeX.
LaTeX ou HTML, où effectivement c'est un petit peu plus casse-couille. Donc bon, c'est un petit logiciel, c'est sympathique d'avoir ce genre d'outils, donc on aime, on en parle.
On va finir la partie logicielle par une bonne nouvelle. Le contrat entre l'armée et Microsoft, le fameux contrat Open Bar, est terminé.
Ouais, il est terminé maintenant. Ils vont faire quoi du coup derrière ? Qu'est-ce qu'ils vont en fait ? Qui qu'ils font ? Ça, on sait pas.
Bon, ils vont sûrement négocier des choses.
Voilà, oui, mais avec qui ? Dans quel cadre ? Etc. Ça... Déjà, jusqu'à maintenant, l'armée, ils n'ont pas été très ouverts. Alors, le contrat
Open. Quand même la gendarmerie.
Oui, voilà.
C'est partie de l'armée.
Oui, c'est l'exception, la gendarmerie. Mais donc, l'accord Open Bar, donc, ça date de 2009. Hein, donc, les accords ont été renouvelés au fur et à mesure. Et grosso modo, c'était si vous voulez utiliser n'importe quel logiciel Microsoft, c'est bon. Allez-y, c'est gratuit. Parce que, enfin, c'est gratuit. Allez-y, c'est inclus dans le contrat. Et donc, c'était un contrat à... Est-ce que le prix était public ? Je ne suis même pas sûr, tu vois.
En tout cas, c'est une opportunité de pouvoir, éventuellement...
Avoir...
Pour les pouvoirs publics, à réduire la dépendance logiciel américain.
Voilà.
Pour quand même un secteur qui a un gros enjeu de souveraineté.
Voilà. Est-ce qu'ils seront plus transparents ? Est-ce qu'ils vont choisir plus de logiciels libres ? Moi, je m'engagerai pas. Je peux pas dire ça. J'y crois pas. C'est, au bout d'un moment, on les connaît quand même à force, hein, ceux-là. Bref.
Quelques news en vrac après un second morceau de musique. Nous allons écouter Julius Marx, Vices. Vous écoutez les Codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. It's a Friday night and we're out to be free, yeah. We've been stranded in a dream, lost in memory a while. But I know when the lights hit, you'll be on my mind. I look in your eyes and you look back in mine. You know all my vices somewhere deep inside. All we all got are vices, you and I. C'était Julius Marx, Vices. Vous écoutez les côtés avec nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. L'actualité...
Pot pourri.
Patchwork d'actualité. Prévention, une nouvelle protection dans le noyau qui aurait empêché toute une famille de failles ces dernières années.
Tout à fait.
Alors, est-ce que c'est dû justement à force rien à voir. C'est même pas à force de voir plusieurs failles. On s'est dit, tiens, en fait, en corrigeant ça, on aurait pu les éviter. Même pas, c'est pas
non,
un hasard.
C'est même pas un hasard. C'est de l'évolution technique au fur et à mesure. Il y a des protections, même pour le code existant, du coup, c'est assez en dehors des changements de langage dans le noyau et tout. On s'est rendu compte que, avec cette fonctionnalité-là et celle-là qui est intégrée maintenant dans les compilateurs modernes, on arrive à faire une protection pour éviter. Donc là, c'est l'instruction même copie, donc c'est pour faire des copies en mémoire. Et ce genre d'instruction est très apprécié pour les piratages parce que si les contrôles sont pas bien faits, ça permet d'écrire à des endroits où c'est pas du tout prévu et ça fait le chaos derrière. Je résume le fonctionnement d'une attaque par même copie. C'est plus compliqué que ça quand même, faut un peu plus jouer, mais voilà l'idée. Et donc là, c'est tout simplement une sécurité pour qui aujourd'hui, ils ont fait des tests et ça aurait vraiment repéré la majorité des attaques de ce genre-là. Enfin, des attaques, tous les bugs, enfin quasiment tous les bugs de ce genre-là qu'ils ont eu. Qu'ils ont vu, en tout cas, qu'ils ont retrouvé, ils se rendent compte que ça les aurait repérés et ça aurait arrêté l'attaque qui était possible là-dessus. Donc il y a eu énormément de failles, notamment des failles sur du Bluetooth, donc des trucs qui étaient assez exploitables. Donc ces failles-là auraient été bloquées, donc c'est toujours une bonne nouvelle de voir ce genre de choses, même si ça vient toujours trop tard.
Une nouvelle preuve des méfaits des brevets logiciels avec la distribution Linux Fedora qui, pour des raisons légales et pour éviter des menaces de procès, a dû désactiver certains codecs de sa distribution. Parce que ça fait l'objet éventuel d'un procès pour violation de brevet.
Tout à fait. C'est même... Je trouve que c'est même pire que ça.
H265
et VC1.
Et VC1.
Alors, je trouve que c'est même pire que ça. Ils n'ont pas retiré le codec. Ils ont dû retirer l'accélération du décodage. Donc, c'est-à-dire que les vidéos vont continuer à fonctionner. Mais au lieu de consommer 10% de processeur et un petit peu de carte graphique et du coup de consommer pas trop d'énergie, ça va consommer masse de processeur et donc de batterie. Donc, c'est vraiment pas une très bonne situation, je trouve. Et effectivement, ils se rendent compte que avant, en fait, ils le fournissaient, mais ils n'ont pas d'accord légal. Ils n'osent pas.
On parle de Fedora, qui est quand même une distribution qui est sponsorisée par IBM.
Oui, ils ont
C'est-à-dire, c'est quand même derrière, il y a du support juridique. C'est-à-dire, c'est pas la petite PME ou la petite association. Même si ça reste communautaire, c'est quand même. Ça fait peur. Même si une distribution. Issu d'IBM, mais qui est quand même la version communautaire d'une distribution qui est soutenue par cet éditeur, c'est quand même dangereux. Enfin, ça fait peur. C'est-à-dire que même eux ne se sentent pas à l'abri et préfèrent, prudemment désactiver les fonctionnalités qui pourraient faire l'objet d'un procès. Alors, j'ai appris, grâce à cet article, à l'article que tu as mis en lien, que VLC était interdit en Inde. C'est-à-dire que les fournisseurs d'accès indiens bloquaient le téléchargement de VLC. Alors, ça m'a surpris. A priori, il n'y a pas d'explication officielle. Alors,
non, c'est ce qui est drôle.
En fouillant un petit peu, j'ai cru comprendre que une des raisons possibles serait que des groupes de pirates chinois utilisent VLC pour escroquer des victimes. Et ce serait pour ça. Ce serait une des raisons possibles. Mais il n'y a pas d'explication officielle. Et je dirais que c'était l'explication la plus plausible qui était mise en avant par le principal responsable de VLC.
Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé d'utiliser les lois. Alors, ils ont travaillé avec des avocats en Inde pour obtenir tout simplement des explications sur pourquoi qu'on est interdit. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les sites nous bannissent? Pourquoi on est obligé de faire des miroirs, etc.? Et donc, ils estiment que là, la façon dont VLC est banni en Inde est en violation avec les lois indiennes. Donc ils aimeraient très bien, enfin ils aimeraient beaucoup savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et donc c'est un bannissement qui date de février de cette année quand même. Donc il serait temps quand même que ça soit débloqué quand même, parce que bloquer l'accès à un logiciel libre comme ça, je trouve que c'est assez con. Et surtout, l'Inde, c'est quand même pas le plus petit des marchés qui soit. Donc à suivre.
Alors, la Cour d'appel de Paris a réduit de 70% l'amende qui avait été infligée pour abus de position dominante à Apple.
Ouais, parce que quand même, Apple, c'est la petite PME française. Hein, on va peut-être pas lui faire trop payer, faut pas déconner.
Bon, après, la décision de justice, c'est pas censé prendre en compte ce genre de considération.
Non, non, mais je...
C'est pas politique, Pierre, une décision de justice.
Non, c'est pas politique, mais je t'avoue que je suis un peu amer face à ça, et surtout, ce que j'adore...
N'ayant pas lu le jugement, toi non plus, je pense que nous ne saurons vous donner l'argumentaire juridique qui a décidé de cette diminution de la
Alors, ce que j'adore, c'est la réponse d'Apple, suite à ça. Ils ont dit que cette décision concerne des pratiques qui ont plus de 10 ans et que, de toute façon, même les autorités françaises ont reconnu qu'elles ne sont plus, qu'elles n'ont plus cours aujourd'hui. Je trouve ça fabuleux comme défense. C'est... J'ai grillé des feux rouges, mais je ne les grille plus maintenant. Vous voyez ? Je ne suis pas condamnable. C'est parce que là, c'est ça. C'est... Ah non, on ne fait plus, monsieur. On respecte la loi, maintenant.
Ouais,
c'est bon, cet argument-là, je le trouve fabuleux.
Il vaut mieux le sortir une fois que tu as obtenu gain de cause.
Ouais, ouais.
Et voilà.
Et donc, c'est tout ce qui est abus de la dépendance économique envers leurs revendeurs, fixation des prix sur les produits non iPhone, notamment les Mac et les iPads pour les revendeurs, etc. C'est vrai qu'ils ont un petit peu essoré tout le marché pour se faire un max de pognon, mais... Tout va bien.
Bon, on ne dit pas si, du coup, le parquet va se pourvoir en cassation. Et en parlant de cassation, Pierre, tu as une histoire à nous raconter.
Tout à fait, une histoire de... Alors,
la dégicalisation, tu n'as que quelques minutes, Pierre.
Oh. Ouais. C'est l'histoire de mon employeur contre Orange. Donc, grosso modo, Orange, il y a quelques années, a voulu répondre à un appel d'offres de l'État. Ils avaient besoin pour ça d'une brique logicielle qui était soit assez longue à développer en interne, soit prendre une brique existante. La référence libre là-dessus était éditée par l'entreprise Entrouvert France, sous licence GPL ou sous licence commerciale. Il y avait un choix à faire, il fallait contacter Entrouvert pour ça. Orange a contacté Entrouvert, a commencé à discuter, puis a cessé les discussions à un moment. Et l'entreprise Entrouvert s'est rendu compte que Orange avait vendu à l'État une solution qui intégrait le logiciel sans respecter la licence GPL, puisque Orange ne fournissait pas le code source.
On rappelle que la licence GPL n'empêche pas du tout une utilisation commerciale.
Non,
pas
mais par contre, Orange, il faut fournir le code source.
Voilà, Orange a tout à fait le droit d'utiliser, de vendre à l'État une solution avec du code GPL. Mais il faut qu'il reverse le code source et les modifications qui ont été faites.
Tout à fait. Et c'est là qu'on tombe sur un gros problème pour la société Entrouvert. Ça a été dire, d'abord, il a fallu démontrer que c'est bien le code source du logiciel Lasso, donc le logiciel en question, qui a été utilisé.
Pour ça, il faut
Là, c'est du code Python, mais il a fallu faire des expertises pour avoir accès au code source, etc. Enfin, ça a été quand même relativement compliqué. Et donc, en justice, Entrouvert a dit, vous avez violé la licence, vous n'avez pas le droit. Là, c'est de la violation de licence. Et en justice, on leur a dit... Mais puisque vous diffusez le code, c'est ce que vous vouliez au final. Donc non, votre argument n'a pas lieu d'être. Donc c'était le jugement précédent. Donc qui dit, en gros, ce jugement-là, c'était la licence GPL, on n'en a rien à foutre, ça ne vous protégera jamais.
C'est pareil qu'une licence non copyleft, genre MIT ou BSD.
Et donc, la Cour de cassation a jugé l'affaire et a dit, eh bien non. La licence GPL, enfin, on peut demander réparation pour piratage sur la base de pour contrefaçon sur la base de la licence GPL.
Parce que si vous utilisez un logiciel sous licence GPL, vous acceptez un contrat.
Exactement.
Et la Cour de cassation a rappelé
un
le droit.
Un contrat de licence.
C'est-à-dire que vous avez accepté un contrat, donc voilà. Vous respectez les termes du contrat.
Et c'est assez fort, mine de rien, puisque ça veut dire que les logiciels sous licence GPL, du coup, sont bien protégés par la licence GPL en France, et on peut être attaqué pour contrefaçon si on viole la licence.
Donc, ça rappelle d'ailleurs quel est le rôle de la Cour de cassation. Le rôle de la Cour de cassation n'est pas de dire est-ce que Orange a ou non utilisé du code source. Ça, ça a été, on va dire, acté en cours d'appel. La question à laquelle a répondu la Cour de cassation, c'est est-ce que ça constitue ou non une violation de GPL ? Est-ce que
une contrefaçon.
Voilà, est-ce que violer la GPL, c'est une contrefaçon ? Alors, il y a déjà eu jurisprudence là-dessus. Est-ce que Orange est tenu de respecter les termes du contrat ? Et très logiquement, la Cour de cassation a répondu que oui. Et elle a reprécisé la règle de droit.
Exactement.
Enfin, l'application de la loi. Pierre, ce sera la dégeekalisation, une chance sur dix. Après, un troisième morceau de musique, nous allons écouter Paradigma, Outside the Box. Vous écoutez les Codecs, nous, sur Radio Campus en 6,6. Ça vous étonne encore. Campusil.com.
Le mât est de retour.
Et le mât est de retour, donc il a été réparé. Et la radio numérique terrestre. C'était Paradigma Outside the Box. Vous écoutez les Codecs sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique derrière campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Matériel avec du réseau embarqué et obsolescence imposée. C'est le thème du jour, Pierre.
Tout à fait, on va s'amuser. Alors, On a parlé souvent de obsolescence programmée. C'est assez simple, l'obsolescence programmée. Vous fabriquez un matériel, je sais pas. Bah on va prendre ce qui nous concerne pas vraiment. Vous fabriquez une imprimante et vous mettez dans la puce dans le firmware, vous mettez un petit compteur sur le nombre de pages qui sortent. Et si ce compteur retombe à zéro, et ben l'imprimante arrête de fonctionner. Et puis, ce compteur, vous le stockez sur 16 bits, et comme ça, au bout de X milliers. Enfin, vous le mettez sur un intervalle relativement court, 16 bits, ouais, ça devrait être pas mal. Et au bout de 16, 32 000, ou je ne sais combien de pages, pouf, l'imprimante arrêtera de fonctionner, mais on sera en dehors de la garantie, et du coup, c'est dommage, il faut en acheter une nouvelle.
Bon, je crois que ça doit marcher qu'avec des imprimantes domestiques.
Ouais, vaut mieux. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est de l'obsolescence programmée. Et c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Et malheureusement, on va dire, tout le monde ne fait pas bien la différence. Alors, je me base aujourd'hui sur un journal LinuxFR, un petit coup de gueule de quelqu'un qui a dit « Oui, des imprimantes de telle marque qui ont 10 ans vont être bloquées par les navigateurs web parce que le protocole n'est pas assez sécurisé et le support de l'entreprise a dit « Non, on va pas mettre à jour les firmware des imprimantes. » Et l'utilisateur dit « C'est de l'obsolescence programmée. » Et là, j'ai envie de dire « Oui, mais par qui ?» Parce que le fabricant de l'imprimante, il y a 10 ans, il a supporté, alors là, les protocoles de chiffrement, c'est TLS 1.0. Il y a 10 ans, il supportait TLS 1.0. Est-ce qu'il pouvait supporter mieux il y a 10 ans? Déjà, c'était pas gagné, il pouvait peut-être supporter le 1.1, le 1.2, c'était vraiment un fabricant visionnaire. Et le 1.3 n'existait pas. Mais il y a 10 ans, sortir une imprimante qui ne supportait que le TLS 1.0, ça ne choquait personne. Parce que c'est tout le monde utilisait encore TLS 1.0 quasiment. C'était pour avoir une bonne note, il fallait supporter le 1.1 et 1.2, mais c'était pas choquant.
Là, dans les cadres, en fait, on retrouve le même avec les téléphones portables, notamment. Normalement, ça est censé avoir une durée de vie un peu plus importante. C'est le manque de suivi et de mise à jour du matériel.
Mais là, on est même plus vicieux que ça. C'est parce que l'imprimante va continuer à fonctionner très bien, mais... Et c'est quelque chose qui, moi, me gêne par contre. Il y a une RFC qui est sortie l'année dernière, j'avais pas fait attention, la 8996, sur la dépréciation de TLS 1.0 et 1.1. Et cette RFC, donc les RFC, c'est les normes réseau Internet, donc c'est des documents qu'on est supposé respecter, et cette RFC me semble extrêmement violente. Elle recommande que ce soit pour les serveurs ou pour les clients, elle recommande de ne plus être compatible avec TLS 1.0 et 1.1. Et c'est là où moi je suis vraiment emmerdé. C'est que demain, vous allez avoir une imprimante qui fonctionne extrêmement bien, mais qui ne marchera plus parce que vous ne trouverez plus de navigateur web compatible avec votre ordinateur qui puisse parler à l'imprimante.
Ou alors, la seule solution serait d'utiliser un vieil ordinateur, ou en tout cas un ordinateur récent, mais avec
un vieux navigateur,
avec les problèmes de sécurité ça peut avoir.
Et un navigateur à côté uniquement pour parler à l'imprimante. Alors, avec en plus aujourd'hui des navigateurs qui font tous des mises à jour automatiques dans ton dos. Ça va vraiment être facile, tiens.
Bon, je pense que tu mets un Firefox 1.0, je suis pas sûr qu'il va se mettre à jour tout seul.
Non, effectivement, il ne se met pas celui-là. Mais la situation est quand même assez ubuesque. On se retrouve avec des gens qui vont accuser. Et je comprends le raisonnement d'accuser le fabricant de l'imprimante comme étant auteur d'obsolescence programmée, mais ce n'est pas le fabricant de l'imprimante qui a programmé, il pouvait pas prévoir qu'en 2021, il allait y avoir une RFC qui allait dire « C'est terminé, on abolit les vieux protocoles de chiffrement ». Il ne pouvait pas avoir le matériel qui soit forcément compatible avec les nouveaux protocoles de chiffrement. Parce que c'est des protocoles c'est des évolutions qui peuvent être plus lourdes, plus complexes à implémenter. Le matériel est peut-être juste pas taillé pour ça. Peut-être que le matériel prendrait 15-30 secondes pour juste afficher la page d'administration à cause du nouveau système de chiffrement parce que faut mettre une plus grosse puce. Combien de temps le fabricant est-il supposé suivre des évolutions qui ne sont pas de son fait? Est-ce que de la part du fabricant, il serait légitime d'exiger votre imprimante, vous m'envoyez une nouvelle puce et un nouveau firmware qui soit compatible avec les nouveaux protocoles qui sortent?
Là, on parle de 10 ans, mais ça se trouve, une imprimante vachement solide, elle fonctionne au bout de 30 ans, c'est vrai qu'on peut encore avoir le problème.
Ben oui. Alors, une imprimante qui a 30 ans, il va y avoir d'autres soucis, il va y avoir les évolutions de la connectique. Mais là aussi, c'est...
30 ans, c'est vrai que les imprimantes USB, ça...
Il y a 30 ans, les imprimantes USB, ça ne risquait pas d'exister. Oui, c'était sur port parallèle. Et ça commence à devenir chaud de trouver ça sur des PC. Là, je suis en train de réfléchir. J'en ai pas vu depuis longtemps sur des ordinateurs neufs. J'ai déjà eu des épaves dans les mains récemment qui avaient encore ce port-là, mais des récents, ça se trouve pas. Mais du coup, sur des trucs réseau, les prises réseau, elles n'ont pas franchement évolué depuis 30 ans. Enfin, on va oublier ce qu'il y avait avant l'Ethernet, hein, quand même. Vraiment,
le câble a évolué, mais pas la connectique.
Ouais, non. Mais avant, il y a vraiment des connectiques, t'as vraiment pas envie d'en reparler. Le RJ45 existait déjà au début des années 90. Des imprimantes qui parlaient ça pouvait se trouver. Mais du coup, là, on est sur un cas où c'est de l'obsolescence qui est imposée par les navigateurs web. Et je trouve que là, la RFC, donc la 8996, qui interdit TLS 1.0 et 1.1, cette RFC, c'est n'importe quoi, je trouve. C'est une RFC de gens qui font de l'onanisme intellectuel dans leur coin, en se disant « mon monde, il est beau, mon monde, il est moderne ».
C'est le processus, en fait, de mise au point des RFC et...
Ben, je sais pas qui a osé écrire ça, et qui s'est dit... Et derrière, tous ceux qui se sont dit « ah ouais, non, c'est une bonne idée !» Mais non, c'est pas une bonne idée, enfin.
Rappelle-nous comment ça marche. Comment n'importe qui a le droit de contribuer. Il y a des votes, il y a des votations.
Voilà, il y a des auteurs qui vont faire une proposition. Derrière, il va y avoir des relectures, une validation par l'IETF des RFC. Et donc, c'est des rassemblements d'ingénieurs. C'est des gens qui sont supposés être... intelligent, tout ça, bien. Mais là, ne pas voir que ça va mettre, pas en danger, mais que ça peut mettre à la poubelle une quantité phénoménale de matériel qui marche extrêmement bien, ça me choque. C'est pourquoi je ne comprends pas quel est l'intérêt. Le navigateur web pourrait très bien avoir l'interdiction d'utiliser TLS 1.0 et 1.1 sans afficher un bandeau. Voilà, les clients, en fait, il y a un vocabulaire très précis, hein, c'est should, must, etc. Et là, c'est must not. Ils utilisent le verbe must, donc c'est une obligation.
C'est interdit, c'est must.
Interdit. Je ne comprends pas.
Alors sinon, Pierre, un auditeur dans l'oreillette nous suggère donc que pour 30 euros, on peut trouver un adaptateur USB parallèle. Je ne savais pas que ça existait. Merci.
Si, merci Marc. Je savais que ça existait, oui. Par contre, je poserais bien une question. Est-ce que je peux brancher une clé de licence d'Encyclopédie Universalis sur un adaptateur comme ça? Je ne pense pas. Mais c'est un vieux souvenir. Les clés de licence vendues sur port parallèle, c'était très très drôle.
La réponse au prochain épisode.
Non, mais en tout cas, donc... Effectivement, j'avais pas vu que les navigateurs web allaient faire cette suppression arbitraire et ça me fait franchement peur.
Merci Pierre. C'était donc l'actualité des deux semaines écoulées. C'était Décodez-nous 241. On se retrouve dans deux semaines pour Décodez-nous 242. Nous serons le dimanche 23 octobre à 19h comme d'habitude. On se retrouve avec Chupavimento tout de suite à l'instant et nous, on vous souhaite une très bonne fin de week-end. Au revoir à tous.
Bye bye.
Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.